Il est 13h sur Radio Orient. Bonjour à tous. Le journal Loïc Barrière. La Commission des droits de l'homme de l'ONU confirme que c'est un tir de l'armée israélienne qui a tué la journaliste Shirin Abu Akleh. 400 migrants ont tenté ce matin d'entrer dans l'enclave espagnole de Melilla à partir du Maroc. En Tunisie, l'arrestation de l'ancien Premier ministre Hamadi Jebali, suspecté de blanchiment d'argent. Il y a 50 ans, était adoptée la loi Pleven contre le racisme, entretien avec Kaltoum Gashi, coprésidente du MRAP. Enfin, la caravane passe a achevé une tournée dans plusieurs villes d'Algérie, une promesse que le groupe musical avait faite à Rachid Taha, entretien avec le chanteur et musicien Thomas Fetterman. Shirin Abu Akleh a été tuée le 11 mai dernier par un tir de l'armée israélienne. C'est ce qu'affirme aujourd'hui le Haut Commissariat de l'ONU aux droits de l'homme. Une conclusion à laquelle arrive l'ONU après une enquête auprès de l'armée israélienne et du procureur général palestinien. La journaliste palestino-américaine n'a donc pas été tuée par des tirs indiscriminés de Palestiniens armés, comme l'affirmaient initialement les autorités israéliennes. De nombreux médias américains sont arrivés aux mêmes conclusions. Plus de 400 migrants partis du Maroc ont essayé d'entrer ce matin dans l'enclave espagnole de Melilla. Il s'agit de la première tentative d'entrée massive à Melilla depuis la normalisation des relations entre Madrid et Rabat. En Tunisie, l'arrestation de l'ancien Premier ministre Hamadi Jebali, ex-président des Nahda. Selon son avocat, il a été arrêté par des policiers alors qu'il était dans sa voiture à Sousse, puis il a été emmené à Tunis. Il a été placé en garde à vue par le pôle antiterroriste de Tunis pour des suspicions de blanchiment d'argent. Selon son avocat, l'ancien Premier ministre fait l'objet d'une enquête sur les activités de son atelier de fabrication de chaudières dans la région de Sousse. La loi du 1er juillet 1972, dite loi Pleven, a bientôt 50 ans. Depuis cette date, le racisme n'est plus une opinion en France, mais un délit. L'invité de rencontre hier était l'avocate Kaltoum Gashi, co-présidente du MRAP à l'occasion du 50e anniversaire de cette loi. Le MRAP organise une journée de débat à la Bourse du Travail à Paris demain, extrait de cette émission.
Cette loi, elle a évidemment une importance cruciale et je dois dire que le contexte actuel la rend plus que jamais indispensable. Elle a été adoptée à l'unanimité des parlementaires. Je crois que ça mérite d'être souligné. Je crois aussi que si on la soumettait à notre Assemblée nationale actuelle, eh bien on serait hélas très loin de cette unanimité. Elle fait suite, cette loi de 72, à un décret Marchandeau qui était assez indigent en matière de lutte contre le racisme sous toutes ses formes. Le MRAP a travaillé d'arrache-pied sur la nécessité de faire adopter une législation adaptée en matière de lutte contre le racisme par l'intermédiaire de son président Léon Lioncamp, qui a été président du MRAP de 53 à 62, c'était un éminent juriste président de la Cour de cassation, et cette loi s'est alors imposée. Vous disiez loi Pleven, et c'est vrai qu'on la retient sous cette dénomination.
C'était le nom du ministre de la Justice de l'époque.
Absolument, ce n'est pas une origine gouvernementale. Hein. On est bien en présence d'une proposition de loi, et le personnage emblématique de ce point de vue, c'est surtout le rapporteur de cette proposition de loi qui était Benjamin de l'Assemblée nationale, monsieur Alain Ternoir, que j'ai d'ailleurs personnellement interviewé pour ce 50e anniversaire.
Il sera présent samedi.
Alors, il a une impossibilité d'être physiquement présent, mais il a tenu à rappeler ce qu'il en était de cette loi et ce qu'il en était aussi du rôle crucial du MRAP. Je l'ai interrogé il y a donc quelques jours sur sa perception de la loi de 72. Au regard du contexte actuel.
Mais il y avait un contexte politique particulier à l'époque qui a poussé le MRAP justement à contacter les députés de l'époque pour faire adopter cette loi contre le racisme.
On était aussi en France à quelques années de la fin de la guerre d'Algérie avec une nécessité aussi de respecter les différences et de sanctionner beaucoup plus efficacement les comportements, les actes, les propos racistes. Donc, on est dans cette volonté d'efficacité avec une possibilité qui a été adoptée par cette loi et qui est très importante pour les associations de pouvoir se constituer partie civile à l'occasion d'actes ou de propos racistes. Et le MRAP a appelé de ses voeux cette initiative. C'est ce qui fait aujourd'hui que nous sommes présents dans un procès de lutte contre le racisme et on a notamment combattu des politiques de tous bords, hein, d'ailleurs, puisque le racisme n'est pas l'apanage d'un parti politique, même si, bien évidemment, les idées d'extrême droite banalisent le racisme.
1972, c'est 10 ans après l'indépendance de l'Algérie. Et effectivement, il y avait un racisme anti-arabe très présent à l'époque. Il y avait aussi des morts. On tuait aussi au nom du racisme.
Absolument. Absolument, et ce sont ces actes-là qui ont conduit le mouvement contre le racisme et pour l'amitié entre les peuples à œuvrer, à agir. On est aussi dans un contexte où la Convention internationale pour l'élimination de toutes les formes de discrimination raciale a été adoptée sous l'égide des Nations Unies en 65. Elle a été ratifiée par la France en 71. Donc il y a aussi une volonté interne, mais également internationale, de faire en sorte que le racisme ne soit plus né. D'ailleurs, il faut rappeler comme un leitmotiv, le racisme n'est pas une opinion, c'est un délit et c'est la force de cette loi de 72 de l'avoir rappelé. Certains pouvaient considérer tout à fait anodin d'injurier à raison de l'appartenance vraie ou supposée à une religion, à une ethnie. Et depuis cette loi, sa force a été de réaffirmer que les injures à caractère raciste, les diffamations à caractère raciste et les provocations à haine raciste sont réprimées pénalement. Ce sont des infractions à caractère pénal. Et je dis délibérément raciste plutôt que racial, parce qu'au MRAP, on considère que la formule raciale présuppose peut-être l'existence de race, ce à quoi nous opposons fermement.
Cette loi de 1972 a été finalement complétée par la loi Guesso. Qu'a ajouté la loi Guesso à la loi Pleven?
Alors la loi Guesso se situe effectivement dans le prolongement de la loi de 72. Et d'ailleurs, la loi de 72 a été qualifiée de loi matricielle, de loi ayant un rôle moteur. Et ce samedi, nous aurons Madame Danielle Lochat, qui est professeure émérite à l'université, qui viendra nous rappeler que cette loi de 72 a débouché sur d'autres lois. Cette loi Guesso de 90 qui est venue réprimer la contestation de crimes contre l'humanité, mais il y en a d'autres qui s'inscrivent dans son sillage et qui viennent lutter contre l'homophobie, par exemple.
Kaltoum Gachi, co-présidente du MRAP. Le MRAP organise une journée de débat à l'occasion du 50e anniversaire de la loi de 1972 contre le racisme. Demain, à la Bourse du Travail à Paris, Kaltoum Gachi était l'invité de rencontre, émission que vous pouvez écouter sur radioorient.com. Le Covid reprend en France. Le variant BA5 représente désormais 41% des tests positifs. Il est plus transmissible et échappe davantage aux vaccins. Conséquence, les tests explosent en une semaine. 1,262 millions de prélèvements ont été validés par un professionnel de santé. Un bilan en hausse de 25% par rapport à la semaine précédente. Et puis les vaccins auraient évité près de 20 millions de morts en 2021. Selon une étude, les pays à revenus élevés et intermédiaires ont représenté le plus grand nombre de décès évités. Le groupe français La Caravane Pass vient d'effectuer une tournée en Algérie. Les musiciens ont été accueillis successivement à Annaba, Oran, Tlemcen, Alger et Constantine, jazz manouche, fanfare balkanique, une musique joyeuse et métissée. La Caravane Pass, fondée en 2001, avait notamment travaillé avec Rachid Taha. On écoute Thomas Fetterman, musicien et chanteur du groupe.
Alors on est arrivé mercredi dernier et là on est sur la fin de la tournée en réalité. On a commencé la semaine dernière, on jouait à Annaba pour commencer. Après, on a été à Oran, après à Tlemcen. On était à Alger le jour de la fête de la musique. Et aujourd'hui, là, on est à Constantine. Là, je suis en direct de Constantine.
Et donc, l'Algérie, pour vous, c'est un pays important musicalement. Vous avez travaillé notamment avec Rachid Taha.
Oui, c'est un pays très important, en effet, pour nous. On a commencé la Caravane Pass en faisant des musiques en général qui évoquent le voyage, donc c'était beaucoup de musique tzigane, beaucoup de musique des Balkans, etc. Et on a très vite élargi le répertoire avec les musiques orientales, surtout qu'au troisième album, quand on a rencontré Rachid Taha, c'était en 2009, et depuis on s'est plus quitté, en particulier lui et moi, puisque on a travaillé beaucoup ensemble jusqu'à faire son dernier album tous les deux en fait, où j'étais à ses côtés pendant près de 3 ans pour faire l'album qui est devenu son dernier album, qui est Je suis africain. On s'était promis, il m'avait promis, on fera la tournée ensemble, je t'emmènerai en Algérie, dans mon pays, je t'emmènerai dans mon village, etc. Et malheureusement, il est parti avant. Et c'est la première fois qu'on met les pieds ici en Algérie, donc effectivement, c'est assez intense. Et il y a beaucoup d'émotions et beaucoup de bonheur aussi.
C'est la promesse que vous aviez faite à Rachid Taha d'aller en Algérie que vous réalisez aujourd'hui.
Exactement. Exactement. Là, on concrétise le rêve qu'on avait fait ensemble.
Comment a réagi le public algérien à vos concerts ?
Ben, pour être parfaitement honnête, on se sent ici comme à la maison. C'est-à-dire que moi, j'ai grandi à Ménilmontant, donc c'est un quartier où il y a beaucoup d'Algériens, notamment des Kabyles, mais pas que, il y a beaucoup d'Algériens en général. Et j'ai toujours eu beaucoup d'amis d'Algérie, mais j'étais jamais allé en Algérie. Donc je suis pas déçu du tout, j'ai l'impression que c'est très naturel, les gens sont très gentils, très 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 curieux de tout, etc. Et pour les concerts, là, il suffit qu'on fasse quelques notes, qu'on explique aux gens que c'est de la musique faite pour danser, et tout le monde est debout tout de suite. Et ça, c'est très appréciable. Et autre chose qui est très appréciable, c'est l'attention qu'a le public pour les paroles. Ils écoutent à la fin des concerts, je passe du temps avec le public toujours, et tout le monde m'interroge, ah, à tel moment t'as chanté ça, t'as dit ça, est-ce que ça, c'est ça? Et c'est très 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 agréable, on a vraiment un public de qualité ici.
J'ai l'impression qu'il y a peu de groupes français qui viennent tourner en Algérie, c'est aussi un événement, le simple fait de vous déplacer.
Oui, alors il y en a, mais c'est vrai que bah, y a un historique entre la France et l'Algérie qui fait que c'est pas évident pour l'Algérie de dire tiens, on va inviter plein de groupes français à venir. Ils ont aussi envie, je pense, de faire de continuer à construire leur propre culture. Mais voilà, je pense qu'il y en a quand même de plus en plus qui viennent. La porte est pas fermée. En tout cas, j'ai pas eu le sentiment que la porte était fermée. Mais c'est vrai que il faut un visa de toute façon, et en particulier pour les Français. Et c'est vrai que c'est pas facile forcément de venir comme ça. Mais en revanche, l'Institut français, là dans toutes les villes où on a été, est très bien implanté, très très apprécié, très respecté. Il y a beaucoup de gens. Les instituts français ici, c'est comme des centres culturels. C'est vraiment les Algériens viennent passer la journée, lire, écouter de la musique, ils vont aux médiathèques, etc. Ils vont regarder des films. C'est un lieu de sortie naturel pour les gens.
Vous avez joué de la musique en Algérie. Est-ce que vous avez écouté aussi des musiciens algériens?
Oui, le premier soir, il y avait une fête dans un restaurant où on était, où on a pu écouter un petit peu de raï avec du clavier, ce qui était un vrai plaisir à Annaba. On a aussi eu la surprise à Tlemcen de tomber sur un mariage dans la rue, donc là il y avait les musiques de mariage, ce qui était absolument génial. Et puis sinon, il y a beaucoup les chauffeurs de taxi, tout ça, quand on leur dit qu'on est musicien, ils nous font écouter beaucoup de musique. Donc on découvre aussi des nouveaux artistes, on note tout le temps, etc. Et puis à part ça, on a quand même cette mauvaise habitude avec la caravane passe dans tous les pays d'aller chiner des instruments de musique. Donc il y a Zinzin, le saxophoniste et flûtiste du groupe, qui a pas arrêté d'acheter des nouvelles flûtes. Et moi j'ai acheté un banjo algérien, j'ai passé du temps aussi pour le chercher et je suis très content.
Et vous avez le sentiment que ce voyage va influencer encore votre musique à l'avenir ?
Oui, d'ailleurs, avant de partir, j'avais au téléphone Hakim Amadouche, qui était le joueur de mandol de Rachid. Et la veille au soir, il me disait, tu vas voir, quand tu seras en Algérie, tu vas avoir plein de nouvelles idées de musique. Et c'est vrai, t'arrêtes pas d'enregistrer des idées de paroles, des idées de musique, etc. Oui, comme tous les voyages, et celui-là particulièrement, mais oui, ça nous influence, ça va influencer la suite, c'est sûr. Ce qui me marque, c'est que, bien sûr, on fait de la musique pour danser, donc c'est vrai que ça danse facilement, mais ce qui me marque, c'est que les gens écoutent les paroles. Les paroles en français, je parle des textes en français que j'ai écrits, ils s'interrogent, j'ai à chaque fois des questions, pour des précisions sur des choses. On sent vraiment un grand intérêt pour tout ça. Et puis, bon, après, ici, le français est très, 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 très parlé.
Thomas Fetterman, musicien et chanteur du groupe La Caravane Passe. Cette édition est terminée et l'invité de Pluriel à 19h et 23h est Nicolas Jeannetet, vice-président du groupe Changer Paris, vice-président de la commission Espace Public Transport, Sécurité et délégué auprès du maire du 15e à la Tranquillité Publique, la Prévention et la Police Municipale. Je vous retrouve à 17h30 pour le journal. Excellente journée à tous.